Sud Radio 10h midi, débat.
Et Sud Radio, parlons vrai, vous pouvez d'ores et déjà nous appeler au 0826 300 300, réagir également sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook, vous connaissez le principe, avec nos débatteurs on fait le tour de l'actualité du jour et à chaque fois on ne manque pas de sujets pour débattre et nos débatteurs sont en train de s'installer. Sophie de Menton est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Chef d'entreprise et présidente du mouvement Éthique, vient de s'installer également Frédéric Dabi, le directeur général adjoint.
Bonjour.
De l'IFOP. Bonjour Frédéric, et on est en ligne également avec Anne-Laure Blin qui est ici. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour.
Députée LR du Maine-et-Loire, on est ravis de vous avoir en ce lundi matin. Et Mehdi Houari qui est là également, connecté. Bonjour Mehdi.
Et bonjour.
Essayiste et spécialiste du discours politique. Alors on dit souvent que les médias adorent faire des polémiques pour faire des polémiques, mais il faut quand même reconnaître qu'elles nous arrivent servies sur un plateau aussi tout au long des jours qui défilent. Et aujourd'hui, on va évoquer avec vous cette campagne de vaccination chaque semaine avec son lot de nouveautés. Puisque depuis aujourd'hui, les plus de 55 ans sans comorbidité, c'est comme ça qu'on dit, peuvent se faire vacciner avec deux vaccins bien précis. Est-ce que c'est une véritable accélération ou un moyen d'écouler des stocks? On y reviendra. On reviendra avec vous aussi sur ce sondage publié par IFOP, Frédéric Dabi, Sud Radio et le JDD hier. Le retour du duel Macron-Le Pen, est-ce qu'il est véritablement inévitable à un an de la présidentielle du premier tour? Sans doute. Et puis à propos d'élections et de politique, ce débat qui revient sur les élections régionales. Est-ce qu'elles auront vraiment lieu au mois de juin? La question est posée par l'exécutif auprès des 36 000 maires de France qui doivent donner la réponse jusqu'à midi. Il y aura des débats également avec les parlementaires cette semaine. Mais à quoi joue le gouvernement? On se posera bien évidemment la question et vous nous appelez au 0826 300 300. Mais on commence tout de suite par vos coups de cœur et vos coups de gueule de l'actualité. Honneur à vous, mesdames. Sophie de Menton, qu'est-ce que vous voulez mettre en avant?
C'est un coup de cœur. Figurez-vous qu'il y a... d'ailleurs, elle a un nom merveilleux. Elle s'appelle Marie-Françoise Lheureux. Et elle a décidé d'offrir une retraite aux animaux de laboratoire. Moi, ça me va droit au cœur. Et j'ai un beagle. Et figurez-vous que les beagles, ce sont les chiens préférés des laboratoires. Ils sont tellement gentils qu'on peut leur faire n'importe quoi. Ils ne mordent jamais. Oui. Et donc, c'est vrai qu'on teste nos vaccins. On teste tout ce qui est nécessaire à notre santé auprès des chiens, des chats, des chevaux, des lapins, des rongeurs, des primates et bientôt les crabes. Et là, cette femme a décidé, alors après, quand ils ont bien servi, c'est déjà pagué comme vie, on les euthanasie, et j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Au moment où, en plus, on est enfin en train de reconnaître un petit peu que l'animal n'est pas un meuble, elle a lancé une maison de retraite, enfin un parc, jardin, etc. Et elle recueille à 35 personnes déjà, 200 lieux d'accueil. Tous ces animaux qui sortent des laboratoires maintenant, 150 labos d'ailleurs ont sorti aujourd'hui 4500 animaux. Et là, je trouve ça formidable, ça fait le bonheur des animaux. Donc vous pouvez regarder, le Graal, c'est basé à Charenton, et ça s'appelle le Graal, et pour cause.
Bien, quelqu'un...
C'est un coup de cœur, il faut bien ça quand même.
Oui, surtout que les animaux de laboratoire, ils sont passés un peu sous les radars.
Oui, complètement, là, on fait ce qu'on veut. Heureusement, il y a quand même L'Oréal, etc. Maintenant, il n'y a plus de tests des produits de beauté, on ne le fait plus en principe sur les animaux.
Oui.
Juste une parenthèse, parce que ça, c'est gay. Depuis qu'il y a la pandémie, il y a je ne sais combien d'adoptions de chiens... Et les gens ont besoin de tendresse, de toucher.
Ça permet de sortir sans attestation aussi.
Ouais. Pardon ?
Ça permet de se promener sans attestation aussi.
Oui, il n'y a plus besoin alors.
Oui, il n'y a plus besoin d'attestation. Ouais. Ouais, oui, si, en dehors du couvre-feu.
Oui, c'est vrai.
Voilà.
C'est vrai.
Voilà. Ceci peut peut-être expliquer cela.
Vous êtes plus optimiste que moi. Bon.
C'est ma vision des choses. On continue, Anne-Laure. Un coup de cœur.
Moi, c'est également un coup de cœur. Ah. Un coup de cœur pour nos agriculteurs, et plus particulièrement en ce moment, après les conditions météorologiques qu'ils ont connues, notamment la semaine dernière, et qui ne sont pas finies, parce que moi, je suis dans un département, le Maine-et-Loire, où on a beaucoup de maraîchers, on a aussi des viticulteurs, Voilà, on a beaucoup d'agriculteurs qui travaillent avec la terre. Et c'est vraiment un coup de cœur parce que j'ai passé, il y a une dizaine de jours maintenant, une semaine entière dans une entreprise maraîchère du Saumurois, après avoir déposé une proposition de résolution à l'Assemblée pour que les députés, notamment au début de leur mandat, puissent effectuer un stage en entreprise. Parce qu'on sait très bien qu'en début de législature, et c'est assez dramatique d'ailleurs, après à peine l'élection passée, tout de suite les députés, les sénateurs doivent légiférer. Or, un parlementaire ne connaît pas tous les domaines et pas forcément non plus tous les domaines économiques. Et donc, moi, dans ma proposition de résolution, j'ai proposé qu'on ait un temps consacré vraiment dans l'agenda parlementaire pour que les députés puissent se rendre dans les entreprises. Et donc, puisque moi je suis aussi au début de mon mandat, j'ai décidé de convertir ma proposition législative sur le terrain. Et donc, j'ai passé une semaine avec eux au quotidien, avec les salariés, les saisonniers, voilà, notamment dans une entreprise qui fait nos asperges, qui fait nos
radis. C'est un peu le vie ma vie, c'est ça que vous dites ?
Oui, bah, quelque part, oui, c'est vrai qu'ils ont aussi vécu la mienne parce que la semaine dernière,
d'accord,
on a eu des nouvelles annonces.
Mais... avec mes impôts.
Voilà, c'est une manière de concrétiser une proposition parlementaire parce que quand on est député, on doit véritablement, quand on met en œuvre des mesures, toucher au plus près des réalités du terrain. Et le fait d'avoir suivi une semaine l'activité des chefs d'entreprise, des saisonniers, des salariés, de percevoir véritablement les points de problématiques qui peuvent au quotidien leur empêcher de promouvoir leur activité, je crois que c'était vraiment une initiative très intéressante et en tout cas moi cette semaine m'a été très profitable. Voilà, j'ai
C'est très intéressant. Je vous suggère de venir dans une PME, de faire la compta, de vérifier les contrôles,
les feuilles de paye.
Exactement, c'était une PME, exactement, une PME du Saumurois.
Oui, mais vraiment même la PME basique, sans secteur particulier surtout, d'activité, ce serait
c'est
bien.
C'est le stage.
Mais bravo.
On peut faire toutes nos entreprises.
Et puis j'abonde dans le sens de Sophie. Je propose de au-delà d'avoir un stage qui est un stage quand même mieux rémunéré que celui qu'on offre aux étudiants, je propose quand on dit qu'on vit la vie ce qu'on appelle les administrés, les citoyens, moi je propose de vivre ce que c'est de passer 6 mois comme un restaurateur ou un cafetier aujourd'hui sans revenu. Je propose de se payer ce que paye un agriculteur aujourd'hui pour voir comment ils vivent et non pas d'aller faire des stages. Moi je le dis sans vraiment, c'est pas méchant parce que je vois bien qu'il y a de la bonne volonté derrière l'initiative d'Anne Lorblin. Ce qui me désespère toujours un petit peu avec les politiques, c'est cette espèce de croyance selon laquelle ils connaîtraient mieux le terrain en allant quelques jours s'immerger dans la vie des vrais gens, etc.
Bah, c'est pas mal aussi.
La seule façon,
c'est mieux que rien, mais c'est vrai que c'est complètement éloigné de la réalité. Moi, j'avais proposé ça.
Je vais finir là-dessus,
mais la seule façon en réalité d'avoir des politiques, et là-dessus, c'est un bon point pour le coup que moi je décerne vraiment à Macron, parce qu'il avait vraiment fait un énorme effort. On l'avait moqué à l'époque en disant qu'il avait fait un casting, mais en réalité, Macron avait fait quelque chose d'assez intéressant. Alors évidemment, il avait choisi des députés qui étaient plutôt à sa main, entre guillemets, c'est ce qu'il s'est choisi de façon assez opaque dans le système de la République en marche, mais il avait vraiment voulu faire cet effort d'aller chercher des gens qui n'avaient pas des carrières politiques, qui n'étaient pas des politiciens professionnels. Et y avait une forme de promesse qui n'a pas forcément été tenue pendant le quinquennat, etc., pour plein d'autres raisons. Mais en tout cas, dans le casting qui avait été fait par En Marche à l'époque, moi, j'avais trouvé ça assez radical et plutôt bien vu.
Et on voit bien le résultat.
Non, alors avec des défauts et des qualités, c'est-à-dire que moi, je crois pas que la majorité parlementaire, je vais être honnête, je crois pas que la majorité parlementaire fonctionne moins bien en réalité que sous Hollande. Voilà.
J'invite à vivre ma vie de parlementaire, vous verrez comment est traité.
Les citoyens pourraient vivre la vie parlementaire, on pourrait inverser les rôles aussi.
Anne Lorblin, pour le coup, moi les bisbilles avec vos petits camarades de classe ne me concernent pas. Ce que je dis, c'est que
Macron a effectivement fait croire que à gauche, à droite, on pouvait prendre toutes les bonnes idées.
Non, mais il a pas fait croire, il a pris des gens dormants entre guillemets.
Mais c'était pas idiot. C'était pas idiot, ça partait plutôt d'une bonne volonté. Bon.
Des gens de la société civile, il y en a eu d'autres qui sont. Il y a d'autres partis, il y a eu d'autres tentatives précédemment dans d'autres gouvernements de faire entrer des gens de la société civile dans des cases politiques.
C'est tellement bloqué comme monde que c'est vrai que c'est très difficile, que ça finit par devenir un métier, ce qui est navrant. Mais pour je vous donne une anecdote amusante, on avait lancé au sein du mouvement éthique que je préside le fait justement d'inviter des parlementaires chez nous, et j'avais proposé ça au Sénat. Et je me souviens toujours d'avoir eu un sénateur qui avait demandé ce qu'il devait inaugurer et quel jour. Alors que je lui demandais de venir passer 1, 2, 3 jours dans l'entreprise. Ouais. Et donc, ce n'était même pas compréhensible pour eux.
Ouais. Ah, bien sûr.
Non, mais Frédéric Dhabi.
Je trouve que ce qui est dit...
Non, attendez, Frédéric Dhabi. Oh,
ce qui est dit est plutôt en fait, intéressant. Moi, je ne crache pas loin de là sur ce côté vie ma vie. C'est vrai que la principale critique adressée au personnel politique, c'est la déconnexion par rapport au réel. Bien sûr, une semaine sans doute ne suffit pas, mais c'est mieux que rien. Alors, sur le renouvellement en 2017, il a été très fort. C'est le plus fort depuis 1981, où il y avait les députés socialistes barbus, les enseignants qui étaient entrés en masse à l'Assemblée nationale. Il y a eu, si je dirais, le meilleur et le pire. Le pire, parce qu'il y a eu des erreurs de casting catastrophiques, parce que, pardon, la politique, c'est un métier, la professionnalisation de la politique, c'est quelque chose. Et puis, il y a eu des personnes extrêmement proches du terrain qui ont pu, je dirais, être sur une logique de Monsieur Smith au Sénat, de voir un peu comment fonctionnait une assemblée. Et certains font des parlementaires, à gauche comme à droite, voire chez En Marche, parce qu'à droite aussi, il y a eu beaucoup de renouvellement avec des députés issus du monde rural. Ils ont pu apporter beaucoup de choses.
Oui, tout à fait.
Est-ce qu'ils apportent beaucoup de choses? Enfin oui, c'est un autre sujet. Bah, mais
dans un contexte d'un pouvoir exécutif contraint, bien
tout
sûr.
Tout est bloqué, ils ont les sujets la veille.
Mais est-ce que, pardonnez-moi, mais la question, est-ce qu'ils sont, je parle des parlementaires, est-ce qu'ils sont si déconnectés tous de la réalité?
Non, je pense pas.
Est-ce qu'ils n'ont pas aussi, je ne sais pas moi,
non,
par exemple...
c'est le système qui est compliqué. Je crois pas que
est-ce que c'est un faux procès qu'on leur fait souvent?
Probablement.
Enfin, je pense que l'abrogation du cumul des mandats a paradoxalement fait du mal, l'élu le plus en phase avec le terrain, c'est le maire, c'est le conseiller départemental. C'est quelqu'un qui a apporté d'engueulade ou de baffe, comme disait à une époque Gérard Larcher. Alors que là, nous avons des députés qui, s'ils ne jouent pas le jeu, s'ils ne vont pas en circonscription, personne ne leur reprochera. Même si, bon, ils le payeront sans doute en 2022. Mais on n'a pas cette pression du mandat local. Si
c'est là que moi j'ai un petit désaccord avec Frédéric, c'est qu'en réalité, le cumul permettait une chose qui était absolument terrible dans l'ancien système, qui était de créer des fiefs. Et donc, on avait des élus qui commençaient...
Oh bah vous savez, les maires, c'est déjà des fiefs. Hein.
Conseiller municipal, puis ensuite qui était élu maire, qui cumulait avec la fonction de conseiller départemental, à l'époque conseiller général, conseiller régional, député. Le Saint Graal, on était sénateur à vie quand on avait bien travaillé. Et en fait, le problème, c'est que tout ça était lié à la structure des partis, c'est-à-dire que la même personne qui gérait la mairie et la députation ou la place sénatoriale était aussi généralement, alors officiellement ou officieusement, le patron du parti dans la circonscription en question. Mmh. Sous forme de circonscription pour la droite, sous forme plutôt de la circonscription législative, sous forme plutôt de circonscription municipale, donc au niveau plutôt des mairies, c'est ce qu'on appelait le socialisme municipal pour ce qui concernait le PS. Et donc on avait un système hyper concentré où à la fin, en réalité, tout était nécrosé. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a eu des régions entières qui étaient hyper clientélistes, où on distribuait des logements sociaux à tout va pour pouvoir garder sa section socialiste, etc.
Je vois Anne-Laure qui fulmine.
Et aujourd'hui, mine de rien, qu'on le veuille ou non, et c'est pas du tout c'est pas du tout au bénéfice de Macron, c'est plutôt au bénéfice de Hollande qui a accru encore les lois sur le non-cumul. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, certes, le député n'est plus le député maire, mais enfin, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir des indemnités de maire pour savoir ce qui se passe dans sa circonscription? Il suffit d'y vivre, en fait, concrètement. Et deuxièmement, si la personne est si déconnectée, il y a quand même des chances pour qu'elle soit battue à l'élection suivante, ou en tout cas, tout ça dépend d'une majorité législative qui est une logique nationale. Et donc, aujourd'hui, on a quand même un système qui est plutôt plus sain. C'est-à-dire que je pense que ce sera très difficile dans les années à venir de faire ces vieilles carrières à l'ancienne, de vieux barons qu'on voyait, qu'on a tous connu voilà, depuis très très longtemps.
Et en même temps, on reproche à des parlementaires, ou en tous les cas d'anciens hommes et femmes politiques, de retourner dans le privé, donc peut y avoir un mélange des genres. Donc on voit bien aussi la difficulté de notre démocratie, en tous les cas de notre, notre institution politique à trouver finalement sa place. Enfin, c'est un peu comme ça qu'on voit les choses. Je vois l'heure qui tourne, et on va faire une petite pause, là, mesdames, messieurs, dans ce débat. On va s'arrêter et faire les infos de 11h, et on se retrouve pour continuer avec nos débatteurs du jour, Mehdi Ouraoui, Anne-Laure Blin, Frédéric Dabi, Sophie de Menton. On continue des coups de cœur et les coups de gueule de l'actualité, puis on ouvrira donc le premier chapitre de cette émission autour de la vaccination, désormais autorisée aux plus de 55 ans. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, débat.
Et ils sont très en forme, nos débatteurs du jour, aujourd'hui, et vous nous appelez vous aussi au 0826 300 300. Si vous avez plus de 55 ans, que vous n'avez pas de comorbidité ou si vous en avez un tout petit peu, ben vous pouvez quand même nous appeler, nous dire si vous allez oui ou non, et bien voir pour une vaccination dans les prochains jours, puisque dès aujourd'hui c'est tout à fait possible. On va parler dans un instant de cette campagne vaccinale. Est-ce une véritable accélération? On en parle avec nos débatteurs du jour. Sophie de Menton qui est avec nous, chef d'entreprise, président du mouvement Éthique. Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Anne-Laure Blin, députée LR du Maine-et-Loire, et Mehdi Ouraoui qui est essayiste et spécialiste du discours politique. Bah tiens, justement, Mehdi, je vous laisse la parole avec, on continue nos coups de cœur et nos coups de gueule de l'actualité. Oui, petite info, moi aussi, qui m'a intéressée ce week-end.
Mais oui, nous avons une bonne nouvelle ces derniers jours.
C'est faut le souligner, hein, on est
L'Assemblée nationale a, tout à fait, ça mérite d'être souligné, surtout c'est... Pour certains d'entre nous, pour certains citoyens, c'est même une nouvelle un peu historique, que les langues dites minoritaires, ou régionales, ou territoriales, bon, on les appelle un peu comme on veut, soient enfin reconnues à leur juste place dans la loi, en étant capables en plus de dépasser l'opposition un peu stérile entre une république, disons, uniforme, ouais, et des territoires où on parle breton, corse, basque. Nous, il se trouve qu'on parle basque à la maison avec mes enfants, qu'ils vont dans une école immersive bascophone, que donc, c'est, voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur, qu'on pratique au quotidien. Et c'est vrai que c'est quand même une très belle nouvelle que donc l'Assemblée nationale ait adopté par un vote conforme, bon, y compris contre l'avis du gouvernement, oui, qui ne souhaitait pas reconnaître, par exemple, l'enseignement immersif, c'est-à-dire en fait le fait de parler toute la journée aux enfants dans une langue régionale à l'école publique, et je crois que c'est très important de le souligner, à l'école publique, que l'école publique se lance aussi dans cette aventure, et c'est aussi le signe que les mentalités évoluent et surtout qu'on est capable de comprendre que le bilinguisme, le multilinguisme n'est pas un handicap, mais au contraire une richesse, à la fois pour la collectivité en général, avoir des gens qui sont capables de vivre leur identité commune, le français, et puis une identité particulière, le basque, le breton, le corse, d'autres, l'arabe, le portugais, le chinois, il y a aussi d'autres choses, il y a aussi des identités étrangères. Et donc, c'est quand même une très belle nouvelle qu'on soit capable de positiver les choses de cette façon-là, avec en plus une chose qui, à mon avis, est importante, c'est de souligner que le bilinguisme, le multilinguisme, ne handicape pas les enfants, comme on l'a trop souvent fait croire. Encore récemment, par exemple, j'ai croisé un papa portugais qui parlait très mal le français, qui faisait beaucoup d'erreurs de syntaxe, et à qui l'instituteur avait préféré dire qu'il fallait qu'il parle en français à ses enfants à la maison, et alors qu'en réalité, en parlant à ses enfants dans sa langue forte, probablement, il leur aurait transmis cette magnifique langue qui est le portugais, tandis que l'école de la République, et puis le reste, la rue, les gens, l'environnement, puisqu'on parle français partout, évidemment, leur aurait transmis le français. Et donc, je crois que c'est bien qu'on soit capable de sortir de ces préjugés-là, d'autant que les enfants, alors c'est le cas, par exemple, nous, pour les écoles immersives au Pays Basque, elles ont les meilleurs résultats aux examens français, aux examens nationaux français, notamment le bac et le brevet, mais en plus, on voit bien que ce sont des enfants qui sont plus agiles intellectuellement et qui sont probablement mieux préparés au monde dans lequel on vit, un monde dans lequel on est obligé de s'adapter beaucoup, dans lequel on est obligé de jongler beaucoup. On voit bien que les événements et puis la mondialisation nous obligent à jongler beaucoup. Des enfants qui ont les meilleurs résultats, notamment en logique, en mathématiques, pas seulement dans les matières littéraires et dans les matières linguistiques. Et donc, voilà, je pense que tout ça est une belle nouvelle et qu'on peut, voilà, on peut le saluer et en profiter.
Oui, j'ajoute, vous n'avez pas parlé des calendrettes, c'est la langue occitane, les calendrettes, voilà, absolument, il y en a beaucoup.
Aussi en bordure.
Et puis, ce sont des options qu'il y a au bac et qui ont été supprimées. En tous les cas, il y avait une forte menace aussi de ce côté-là. Et c'est vrai que c'était assez incompréhensible de la part et des enseignants et des familles qui souhaitaient cet apprentissage des langues dès le plus jeune âge, des langues étrangères et pas uniquement que l'anglais. Donc ça, c'était votre coup de cœur. Et décidément, on n'a que des coups de cœur ce matin. Donc je finirai moi avec mon coup de gueule. Ah ouais. Mais votre coup de cœur, Frédéric.
C'est moins un coup de cœur qu'une sorte de remarque, une sorte d'éclairage. Et je vais parler de l'école, comme Mehdi Ouraoui l'a fait. Mais je vais parler de fiction. Ce soir, sur les deux plus grandes chaînes françaises, il y a deux fictions avec l'école au centre. Sur TF1, le remplaçant avec le sympathique Joe Star.
On avait Elena Noguera qui joue
le rôle d'un professeur remplaçant, décalé, au look sympathique, qui s'inspire vraiment du cercle des poètes disparus et qui va embarquer ses élèves. Sur France 2, il y a l'école de la vie. Alors, je n'ai vu aucune de ces fictions, bien sûr. C'est un instituteur qui connaît un drame personnel et qui va se reconstruire au fur et à mesure des épisodes avec le contact de ses élèves. Ce qui est intéressant, deux fictions différentes, des thèmes différents, mais qu'il place l'enseignant au cœur du film. Et alors, bien sûr... ce n'est absolument pas original. Ça fait très longtemps que l'école, les instituteurs, les enseignants sont présents dans les œuvres de fiction. Bien sûr, on pense à Victor Novak, Gérard Klein, l'Institut qui nous a...
Dieu, tout ça,
voilà. Ouais. Et c'est vrai que c'était une idée, petite anecdote de François Mitterrand, qui avait glissé l'idée à Pierre Grimblat d'avoir une sorte de modèle iconique républicain. C'est pas seulement les enseignants, Madame la proviseure, Danielle Delorme, pour les plus de 40 ans et demi, Joël Mazard dans Joël Mazard, c'est-à-dire Véronique Jeannot, l'assistante sociale qui est détend et qui est mettant ses élèves. Ouais. Moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a une dimension peut-être de réassurance. On est aujourd'hui à un moment où jamais la confiance dans l'école a été si faible. On avait fait avec Marianne et Sud Radio, je crois, une enquête sur les 1 an du mouvement des Gilets jaunes et on demandait aux Français qu'est-ce qui les énervait, qu'est-ce qui les mettait en colère. Deux items et qui symbolisaient ce mouvement des Gilets jaunes et ce qu'on connaît en ce moment. Un, le travail qui paye mal. Et deux, la situation jugée très dégradée de grandes institutions, l'école et l'hôpital. C'était quelques mois avant la crise du Covid. Jamais les parents ont été aussi inquiets du devenir de leurs enfants. Il y a ce déclin, et à titre personnel, je le déplore vraiment fort, de l'école laïque au profit de l'enseignement privé. J'ai rien contre le privé, mais il y a vraiment des choses où,
on est tout à fait pour le privé, mais on aimerait que l'école publique soit au niveau.
Mais merci ça, Sophie d'être représentante de l'école privée. Et donc, on est vraiment dans un moment particulier. Je trouve assez intéressant que la fiction, je n'ai pas vu ses œuvres, mais sans doute vont-elles présenter une vision idéalisée de l'école dans un contexte où jamais ce qui fait les fondements de l'école ne sont jamais effondrés. Je pense à l'école comme sanctuaire, mise à mal par l'affaire de Créteil il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans, et bien sûr l'affaire Samuel Paty.
Moi, Frédéric, ce qui m'inquiète énormément, j'ai vu un très court extrait avec Joe Star, ça avait l'air sympathique, mais ce qui m'inquiète beaucoup, c'est pour être démago, généralement, le prof, il est en jean quasi troué.
Il est en pantalon de velours et tout.
Mais j'espère que ça ne va pas tomber.
C'est pas le mauvais garçon.
Ça va tomber dans la démagogie. On est là, le prof, pour faire bien, fait des fautes de français.
Je parle du symbole et du...
Ça dépend du feuilleton, le symbole.
On en parle avec Elena Noguera, qui expliquait que, effectivement, Joe Star représente finalement ce professeur atypique qui raccroche aussi, par sa personnalité, certains élèves qui, sans doute, sont en train de
casser la gueule, etc. C'est une image d'aujourd'hui. Je n'ai pas complètement vu l'extrait que j'ai vu.
C'est l'image aussi de ce que peut être... certains, ou en tous les cas des établissements, en tous les cas l'image de certains établissements scolaires.
On a quand même un petit sujet, c'est que tout ça est effectivement de la fiction. C'est-à-dire que des enseignants devant des élèves en ce moment, c'est de la pure fiction.
Ils avaient encore des élèves.
Il y a une semaine, ils avaient encore des élèves.
Un jour sur deux pour les lycéens, ils avaient des élèves.
J'exagère un peu. Juste un point qui est moins...
Et je peux vous dire que les élèves, avec cette période-là, le rapport qu'ils ont avec leurs enseignants, Trintignant aura peut-être un tout petit peu changé.
Oui,
parce que
quand il ne se montre pas à l'écran, parce que moi je l'ai vécu en direct.
Oui, non, Sophie, je vais finir là-dessus. Non, mais je finis rapidement juste là-dessus. Il y a juste un petit point un peu moins léger, quand même, qui, moi, me préoccupe énormément et dont on ne parle pas. C'est qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que les rythmes Covid, parce qu'il faut les appeler comme ça, et d'ailleurs, on ne sait pas dans les années qui viennent combien de zoonoses, combien de pandémies on va vivre et combien de confinements. Le problème que nous avons, c'est quand même que c'est un fabuleux et terrifiant et formidable accélérateur à inégalité. C'est-à-dire que nous avons, moi je le vois au quotidien, nous avons des gamins qui seront des gamins encore plus forts, les forts en thème seront encore plus forts qu'avant, tandis que les décrocheurs aujourd'hui sont en train de passer dans une autre dimension. Tous les enseignants vous le disent, et moi je suis effaré de voir que collectivement, je ne blâme pas seulement le ministre, évidemment, c'est le premier responsable, mais ni encore moins seulement l'Éducation nationale, parce que je crois que c'est une réflexion qui dépasse tout cela, et que les parents, les associations, les mairies devraient penser à tout ça également.
Ouais.
C'est incroyable que nous n'ayons pas été capables de dire que les gamins les plus décrochés, en réalité, parce que ce n'est pas des décrocheurs, c'est des décrochés d'ores et déjà, soient accueillis le soir, le week-end, les mercredis, pendant les vacances scolaires, etc., pour rattraper ce qu'ils n'ont pas pu faire comme
c'est de la discrimination, on dira.
Non, parce qu'en France, il y a quand même quelque chose qui s'appelle quand même la redistribution et la justice sociale. Et donc, il suffirait de prendre simplement, moi je vous le dis, il y a un critère très simple qui s'appellerait le quotient familial. Aujourd'hui, moi je vous donne un exemple, et je donne un exemple à vos auditeurs qui me paraît extrêmement effrayant, c'est qu'un fils de chirurgien qui n'opère pas, puisque les opérations ont été reportées pour cause de Covid, est accueilli de façon prioritaire à l'école, tandis qu'un fils de livreur Uber ou de Deliveroo ou un fils de caissière à Carrefour n'est pas...
Des professions,
non,
je ne pose
pas.
Vous avez raison de dire qu'un fils de livreur n'est pas, mais je pense que les chirurgiens, ils ne se trompent pas les pouces, faut pas déconner.
Frédéric, je n'oppose pas les enfants.
Ne posons pas, il y a
ce moment de la lecture. Après, la liste des personnes qui ont... je parle pour ce que je connais, mais la liste a été élargie aussi, et il y a des enfants dont les parents sont coincés au supermarché ou des choses comme ça, qui sont accueillis dans certaines écoles.
Les mairies ont élargi la liste.
Ce que je veux dire, c'est que les enfants qui sont déjà les plus favorisés, et ne prenons pas forcément les plus riches, parce qu'en réalité, dans l'Éducation nationale, on sait très bien qui sont les plus favorisés, et j'en fais moi-même partie, ce sont les enfants d'enseignants. Donc, simplement, les enfants qui sont les plus favorisés, je
voudrais juste faire mon petit coup de gueule.
Je
voudrais juste faire mon petit coup de gueule pour la France qui habite à plus de 2h30 de Paris. Voilà, donc cette loi qui a été adoptée en première lecture, loi climat et résilience, donc qui interdit désormais les vols supérieurs lorsqu'un trajet en train permet d'effectuer le même trajet en moins de 2h30. Quand on regarde la carte de France, c'est vrai qu'il y a des destinations où c'est compliqué. Et en plus de ça, je pense que ça ne va ni régler ni d'un côté ni de l'autre la situation du transport aérien. Et on tape encore une fois sur l'avion. Voilà, je trouve que je rejoins mes confrères de la Dépêche du Midi qui, ce matin, font une sur cet avion que l'on aime sacrifier aujourd'hui au nom de beaucoup de choses. C'est 100 000 emplois aujourd'hui directs qu'il faut...
Alors en plus, c'est l'État qui subventionne ça. C'est hallucinant. Il ferme des liaisons et il file du pognon parce qu'il ferme les liaisons. Enfin, on tombe sur la tête. On subventionne Air France de façon hallucinante en disant « on ne volera plus ». Mais enfin, je trouve que c'est de la folie. En plus, on n'a pas exactement expliqué, parce que le 2h30 et les liaisons transversales, c'est très compliqué.
C'est extrêmement compliqué.
Extrêmement compliqué.
C'est un Bordeaux-Lyon.
Quant à l'aéroport de Nantes, on nous a... Je n'en parle même plus de l'aéroport de Nantes. Tout ça pour dire, finalement, non.
Allez, on s'arrête sur Sud Radio. On va ouvrir notre premier débat, la campagne vaccinale. Encore une fois, on en parle. On va s'intéresser aux plus de 55 ans. Est-ce que c'est une manière pour le gouvernement d'écouler des stocks de vaccins dont les Français, on va dire, rechignent à se faire vacciner avec, c'est-à-dire l'AstraZeneca. On va en parler dans un instant. Ou c'est une manière d'accélérer parce que les Français répondent présents aujourd'hui sur cette envie d'en sortir par la vaccination. On vous attend aussi au 0826 300 300. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, débat.
Allez mes amis, vous êtes les bienvenus, 0826.
Voilà,
exactement. Mehdi Ouraoui qui est là avec nous, essayiste spécialiste du discours politique. On est avec Anne-Laure Blin également, députée LR du Maine-et-Loire, Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, et Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement Éthique. Cette campagne de vaccination qui semble s'accélérer encore une fois, 0826 300 300. Et donc on a appris hier que le ministre de la Santé donnait son feu vert donc pour l'ouverture de la vaccination à tous les Français âgés de plus de 55 ans, avec la première livraison du vaccin de Johnson & Johnson attendue aujourd'hui en France, avec une semaine d'avance. C'est pour ça que il se met à faire froid tout d'un coup, sans doute. Vendredi, la Haute Autorité de Santé a aussi recommandé une seconde dose de vaccin différent, c'est-à-dire qu'on allonge cette deuxième dose de vaccin pour le Pfizer, BioNTech et le Moderna, et notamment pour les moins de 55 ans qui avaient reçu une première dose d'AstraZeneca aussi. Eh bien, eux pourront se faire vacciner, mais avec un autre vaccin, s'ils ont des doutes, évidemment, des craintes de thrombose atypique. Alors, cet espacement de la deuxième dose, cette ouverture aux plus de 55 ans, est-ce que c'est une manière d'accélérer encore un peu plus la vaccination ? Est-ce que c'est une manière d'écouler les AstraZeneca qui ne trouveraient pas preneur ? Enfin, je mets ça au conditionnel, mais c'est de l'affirmatif, hein, puisque c'est une réalité sur le terrain. Qu'est-ce que vous en pensez ? Anne-Laure Blin, qu'est-ce que vous en pensez de cette, on va dire, cette ouverture aux plus de 55 ans qui trépignait, hein, sans comorbidité, on le rappelle ?
Mais je crois que, de toute manière, je ne sais pas. Enfin, peut-être que c'est une opération de communication. On nous explique que la vaccination s'accélère, mais quoi qu'il en soit, le gouvernement doit permettre à tous les Français, quels qu'ils soient, et très rapidement, de se faire vacciner. Les personnels prioritaires, mais aussi les autres, et je pense notamment aux enseignants. On est rentré depuis la semaine dernière dans une troisième phase du confinement, et ce nouveau confinement s'explique par le fait que la vaccination n'a pas été assez vite. Donc, il faut naturellement l'amplifier partout sur le territoire. Mmh. Alors, il y a quelques mois, on nous expliquait que le vaccinodrome n'était pas utile. Moi, j'en ai un qui ouvre depuis aujourd'hui. J'en ai un autre et je vais à une inauguration tout à l'heure dans ma circonscription d'un nouveau centre de vaccination. Donc, tout ça, c'est très bien. Mais je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que pour qu'il y ait une vaccination d'ampleur, il faut que nous ayons les doses. Et on peut mettre en place tout ce que l'on souhaite. Si nous n'avons pas les doses, ça ne servira à rien.
Ça, je suis bien d'accord avec vous. Et ce qui est terrible, c'est que... Alors, en plus, on se pose la question, mais ça me fait penser à cette histoire très drôle de quelqu'un qui demande à un médecin, docteur, qu'est-ce que je dois penser de ces vaccins ? Et le médecin qui lui dit, écoutez, je ne sais pas, je ne suis pas journaliste. Donc, oui, on nous demande indéfiniment ce qu'on doit penser de ça. Alors, d'abord, pour les stocks, j'ai envie de dire que on n'écoule pas des stocks, puisque maintenant, tout le monde est paniqué sur AstraZeneca, tout le monde décommande. Alors là, on ne peut pas dire qu'ils vont être périmés, ils vont être fichus, alors qu'on a une chance d'avoir une thrombose autant, vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs, que d'être foudroyé. Oui. Donc déjà, on a découragé toute une partie de la population. Ensuite, on joue avec des âges. Pardonnez-moi, mais qu'on ait 52 ans ou 56 ans, quelle est la différence pour la thrombose ? C'est un manque de bon sens qui est complètement fou. Ensuite de ça, je suis tout à fait d'accord, on fait des vaccinodrones sans dose. Ensuite de ça, on empêche indéfiniment ceux qui peuvent de faire quelque chose. Rachida Dati a un centre formidablement bien géré dans le 7e arrondissement, avec l'aide d'ailleurs de boîtes privées du mouvement éthique. On a menacé de la fermer parce qu'elle donnait les doses le soir au personnel enseignant. Elle vaccinait le personnel enseignant le soir. Et la maire de Paris en a fait une affaire politique et a voulu faire fermer le centre de vaccination.
Je crois que c'est pas la maire, c'est plutôt les autorités
de santé.
Par rapport à Rachida Dati.
Non, alors, c'est Anne Hidalgo qui a appelé le préfet de Paris pour faire fermer le centre parce que c'était pas légal. Voilà, déjà, alors là-dessus, elle a eu tous les contrôles qui ont dit que ça allait. Mmh. Ensuite de ça, dans les aberrations, on interdit. Boiron vient de sortir le premier test, le laboratoire français, il vient de sortir, l'homéopathie déremboursée, en passage, vient de sortir un autotest. Bon, les autotests, les labos, le lobby des labos, dans les entreprises, on n'a pas le droit d'en avoir. Nous, on voulait donner des autotests à nos salariés. Terminé, on n'a pas le droit. Tout est comme ça, indéfiniment, avec une gestion qui était vraiment plutôt pro-Macron, etc., j'en peux plus. Les contradictions, l'absence de bon sens, les interdictions, les lobbies pharmaceutiques et laboratoires, je n'en peux plus. Pardon.
Frédéric,
un coup de gueule. C'est un coup de gueule, on est un peu sorti de la vaccination. Ce que je trouve assez en fait intéressant, c'est que, pour l'instant, dans nos enquêtes, peut-être que ça va bouger, parce qu'on a une... opinion qui bouge beaucoup, qui s'est un peu réseau socialisé avec cette crise. On n'a pas d'effet de crainte AstraZeneca sur l'intention de se
mais
faire
est-ce
vacciner.
Que pas, est-ce que suit. Ça n'est pas, oui. comme pour la crainte du vaccin, pardonnez-moi, oui. un, on va dire un effet d'optique, on va dire grossi par les médias.
Mais
on
disait, j'ai envie de vous dire ça.
Est-ce qu'on n'a pas, nous, grossi le fait que les Français, soi-disant, ne voulaient pas se faire vacciner alors qu'il y a une appétence à se faire vacciner? Est-ce qu'on n'a pas grossi...
Demandez autour de vous.
Alors,
hein.
je vais vous dire. Alors, c'est très intéressant, votre question. Au mois de décembre, il y a eu des conclusions très hâtives sur les enquêtes d'opinion qui étaient « Les Français sont contre les vaccins ». C'était bien sûr.
Est-ce que ça n'a pas figé le gouvernement ?
Il n'y a que 10-15% d'anti-vax, ça fait déjà du monde, mais les Français étaient sur une position attentiste. Maintenant, ils sont clairement dans une volonté de se faire vacciner, puisque c'est compris comme le meilleur moyen de retrouver le chemin des jours heureux, le cours de la vie normale, etc. Et ce qui est assez notable, c'est que les polémiques AstraZeneca, bien sûr, ça et là, sur le terrain, vous allez me dire « Oui, j'ai entendu dire qu'on refusait l'AstraZeneca », ou bien ce qu'on entend dire au Chili, en Colombie-Britannique, malgré le vaccin, on reconfine, ça n'a pas, pour l'instant, altéré la propension, la disposition à se faire vacciner, même si, et là je rejoins Sophie, les critiques vis-à-vis de la gestion de l'exécutif sont maintenant extrêmement sévères, même si elles ne touchent pas le président directement.
Mehdi.
Ouais, moi je trouve qu'il y a un contraste assez saisissant entre, c'est ce que vient de dire Frédéric, les critiques qui sont désormais unanimes quasiment hein, sur la politique du gouvernement. Je prends un exemple tout bête, je dois confier, nous devons avec ma femme confier nos enfants à ses parents, on ne sait pas, et donc ils habitent dans une autre région, une région qui vous est chère puisqu'ils habitent à Toulouse, Christine.
Il faut qu'ils aillent au parc des Expos de Toulouse.
Alors eux ils sont vaccinés, mais ne sait même pas, certains sites, on a fait les recherches, comme tous les Français, on ne sait même pas si, par exemple, il y a besoin d'un test PCR pour faire le trajet.
Non.
Parce que je me suis renseigné, effectivement, la réponse est non, donc je le dis à tous les grands-parents qui nous écoutent, je les rassure. Mais enfin, moi, ça m'a bien pris 2 heures, en fonction des sites, etc., qui donnaient des informations différentes, pour trouver l'information. Et donc, il y a quand même ça, c'est plutôt le négatif. L'aspect positif des choses, c'est ce que vient de dire Frédéric, c'est que quand même, on pouvait avoir, en raison de cette grande désorganisation et de cette incapacité à transmettre de l'information fiable, on pouvait avoir un mouvement d'opinion très dangereux, anti-vax, anti-démocratie, anti-science, qui pouvait éventuellement se développer dans les derniers mois. Et on voit bien que les Français ont été plutôt sereins et ont été plutôt sages, en dépit d'ailleurs des confinements, en dépit de la brutalité des décisions qui étaient prises par un conseil de défense dont on ne connaît pas la composition, qui prend des décisions un peu opaques, etc. Et je trouve que nos concitoyens ont été extrêmement sages et qu'ils ont notamment évité de rompre avec cette grande tradition française, qui est une tradition, qui est la tradition de Pasteur, qui est la tradition du lien avec la science, la médecine, les vaccins, etc.
Ce sont un peu des mots, tout ça. Parce que Pasteur...
Non, pas tout à fait. Non, mais pas tout à fait, parce qu'il y a eu évidemment d'énormes cafouillages. Alors, on parle de Pasteur, mais typiquement à l'Institut Pasteur, cette espèce d'histoire folle, où pour des raisons administratives, on n'a pas de vaccin français, parce que des caciques administratifs se tirent la bourre les uns les autres. Mais je trouve que quand même, dans l'opinion, et même si on a eu des moments de volatilité que Frédéric a souligné, mais à un moment qui était tout à fait normal, puisqu'on ne savait pas de quoi seraient faits les vaccins, on ne savait pas dans quelles conditions ils étaient produits, les informations étaient plutôt que...
Enfin, il n'y a jamais eu autant de littérature autour de la vaccination et de comment ces vaccins ont été...
Ce que je veux dire, Christine, c'est qu'il y a un élément insécurisant, évidemment, pour une opinion, dans le fait, en plus, d'entendre qu'on est la 6e puissance mondiale, que toutes les autres puissances sont capables de produire leurs vaccins, et que nous, on se demande si on aura les bons frigos, quoi. C'est-à-dire, il y a évidemment un élément qui ne peut pas rassurer l'opinion quand on en est là. Et donc, je trouve que quand même, en dépit de tout cela, les chiffres que nous donne Frédéric sont extrêmement rassurants.
Il n'y a pas d'autres pays où les gens refusaient de se faire vacciner. Je comprends très bien. Et bravo.
Mais les Français ne se sont pas...
Il y a eu des manifestations. Tous les pays étaient...
Est-ce que ce n'est pas nous qui, finalement, avons grossi le trait sur des anti-vaccins qui étaient effectivement majoritaires? Peut-être.
Il y a eu quand même les manifestations en Allemagne, etc. Ouais. Sophie, c'est quand même... C'est aussi ça qu'on a vu.
Alors, attendons d'avoir les nouvelles règles pour la vaccination. Donc, je rappelle le principe aujourd'hui.
Et qui changeront demain, d'ailleurs.
Qui peuvent encore changer demain. Ça, c'est vrai aussi. C'est qu'on est servi sur ce sujet-là, les plus de 55 ans. Donc, ils peuvent être vaccinés. Et on souligne aussi qu'on a parlé des enseignants. Pour l'instant, on n'a pas donné Les enseignants sont effectivement dans les radars pour être vaccinés, mais ils n'ont encore pas de date précise pour l'ouverture de la vaccination, à moins qu'ils rentrent dans les critères qui sont développés aujourd'hui sans présenter leur carte comme quoi ils sont bien enseignants. Allez, on referme ce dossier vaccination, quoique ça va peser évidemment sur l'échéance de l'année prochaine, hein, cette crise du coronavirus. On revient sur notre sondage IFOP Sud Radio JDD, ce retour du duel Macron-Marine Le Pen. Est-ce qu'il est forcément inévitable l'an prochain à la même époque? On en parle avec vous et nos débatteurs du jour. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, débat.
Sud Radio, parlons vrai, vous nous appelez 0826 300 300 avec nos débatteurs Anne-Laure Blin, députée LR du Maine-et-Loire, Frédéric Dapi, directeur général adjoint de l'IFOP, Sophie de Menton, chef d'entreprise et président du mouvement éthique, et Mehdi Ouraoui, qui est essayiste et spécialiste du discours politique. Alors, on revient avec vous ce matin sur ce sondage publié hier, sondage IFOP Sud Radio dans les colonnes du journal du dimanche du JDD, avec, j'allais dire, l'éternel retour. Alors non, il n'est pas éternel, hein, mais le retour du duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen pour 2022. On est à quasiment un an, alors, hein, oui, jour pour jour, Frédéric. Hein, on n'a pas les dates d'ailleurs, hein, ça doit tous boucler avant le 13 mai.
23, voilà, donc ça sera comme en 2017 et en 2012.
Approchez-vous du micro, Frédéric.
Premier tour autour du 20 avril et puis deuxième tour entre le 7 et 8 mai. Je n'ai pas les dates, mais on peut très facilement.
Je crois que le 13 mai, ça doit être bouclé.
Donc ça peut être le 6 mai. Alors, ouais,
absolument.
Sera le 6 mai, le second tour.
Alors, ce sondage IFOP fiduciel pour le JDD avec Sud Radio, eh bien, à un an du premier tour, eh bien, les finalistes de 2017 arrivent en tête dans tous les cas de figure, dans tous les cas de scénarios qui sont présentés dans ce sondage.
Il faut bien avoir en tête le statut de ce sondage. Qu'est-ce que c'est qu'un sondage? On en fait beaucoup avec IFOP Fiducial pour Sud Radio. Ce n'est pas une prédiction, c'est un rapport de force actuel. Ce qui est très intéressant, c'est que comme dans l'enquête du mois d'octobre, on a beau tester 11 scénarios en octobre premier tour, 10 scénarios avec beaucoup de candidats différents à droite, beaucoup de configurations, gauche unie, gauche dispersée. Ce qui frappe, c'est la permanence du socle électoral d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, qui systématiquement serait premier, deuxième, deuxième, premier. Là, dans cette enquête par rapport au mois d'octobre, c'est plutôt Marine Le Pen qui arrive en tête dans la plupart des scénarios, ce qui est très intéressant. Bien sûr, personne ne peut dire aujourd'hui que ce seront les deux protagonistes du second tour de mai 2022. Mais ce qui me frappe, c'est que, bien sûr, ce second tour n'est pas souhaité, parce que quand on n'est pas électeur de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron, on ne va pas souhaiter ce second tour. Mais c'est que ce n'est pas seulement un duel, c'est l'affrontement de deux France. Jamais je n'ai vu des structures de vote aussi antagonistes, aussi tranchées entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, avec aucune zone de frottement, de concurrence.
Où sont les socialistes là-dedans?
À une époque,
on va parler de la droite aussi.
On avait des cadres, catégorie plutôt à droite, qui votaient à gauche. On avait des ouvriers qui votaient à droite. Là, clairement, c'est deux blocs contre blocs, avec par exemple, sur les âges, Emmanuel Macron très bien placé chez les personnes âgées et chez les plus jeunes. Marine Le Pen, et c'est plus préoccupant, très en tête dans les catégories charnières qui souffrent le plus de la crise, 25-34 ans et 50-64 ans. Ce ne sera peut-être pas le duel de second tour, mais la situation semble aujourd'hui assez figée.
Alors, j'ajoute que, j'ajoute donc que dans ce sondage, Xavier Bertrand distance les concurrents que vous avez testés.
Un sondage qui enterre peut-être l'ex-future primaire de droite, puisque Xavier Bertrand apparaît clairement comme le troisième homme. Il monte même parfois à 20% dans certaines hypothèses. Et au second tour, c'est celui qui ferait le mieux face à Marine Le Pen. C'est un vrai atout pour lui.
Et à gauche, alors, en rappelant que samedi, il y a la réunion de gauche, mais ni Jadot, ni Hidalgo, pour l'instant, n'arrive à percer.
Mélenchon, non. Déjà, avant de parler des différentes individualités, on a un total gauche que je n'ai jamais vu à un tel niveau sur la Ve République. Même en 2007, qui n'était pas un bon cru pour la gauche, on était à 31-32%. Là, on est à 26-27%. En 2012, c'était 40%. L'addition Hollande-Mélenchon-Joly. Là, on a une gauche disloquée, rétrécie. Et Jean-Luc Mélenchon fait un petit peu mieux que Yannick Jadot et Anne Hidalgo. Mais lui, dans une logique de vote d'élimination, se fait écraser par Marine Le Pen au second tour.
Mais Frédéric, j'ai envie de vous dire dernière chose, c'est qu'aucun candidat n'est véritablement figé. Enfin, les noms ne sont pas figés. Donc,
non, ce n'est pas connu. C'est pour ça que j'ai averti au début de notre échange sur une prudence à avoir.
Alors, qui veut réagir? Mehdi.
Là où j'ai une petite nuance avec Frédéric, c'est que l'offre est en réalité plus connue qu'on ne le pense. C'est-à-dire que la réalité, c'est que ce qu'il vient de dire sur Xavier Bertrand, c'est que le candidat de la droite qui s'impose dans les derniers sondages, c'est quand même plutôt lui. Et le problème que nous avons, c'est l'offre de gauche. C'est-à-dire que nous avons une offre de gauche qui est inexistante en termes de personnalité, ou en tout cas, il y a pléthore de personnalités, mais qui ne perce pas. Et surtout, il n'y a aucune offre idéologique, il n'y a aucune offre politique. C'est-à-dire que personne n'est capable, si vous interrogez 10 Français, je ne sais pas combien sont capables de vous donner une idée que défend une grande idée. On savait. Si vous interrogez les Français en 97, quand aux législatives de 97, vous disiez Jospin, globalement, les gens étaient quand même capables. Il avait tellement martelé 35 heures, Pax, ce genre. Voilà. Alors, il a pas martelé Pax, mais 35 heures, parité. Il a fait une campagne très forte sur la question de la parité. Moi, je me souviens. Dans une élection, si vous dites Hollande 2012, bon, alors évidemment, on sait ce qui est devenu le slogan par la suite, mais c'était le changement, c'est maintenant. Mon ennemi, c'est la finance. Vous avez des choses qui.
La jeunesse.
Voilà. Bon. Ouais. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le problème numéro un de la gauche, c'est qu'elle est totalement incapable de faire émerger des idées. Et je vais même aller plus loin, je finis là-dessus, Christine. C'est que je pense que la force montante aujourd'hui à gauche, qui est Europe Écologie Les Verts, se satisfait en partie d'un tango que Emmanuel Macron lui a imposé. Au fond, je pense qu'Emmanuel Macron a substitué Europe Écologie Les Verts à Jean-Luc Mélenchon comme meilleur ennemi, comme meilleur tête à claque. On a quotidiennement, ou en tout cas de façon hebdomadaire, des polémiques. Un jour, c'est l'avion. Un autre jour, c'est le sapin de Noël. Un autre jour, c'est la viande dans les cantines. Un autre jour, c'est la mosquée de Strasbourg, etc. Et on voit bien que cette force, qui est une force très importante, autour d'une idée qui est très importante, qui est l'écologie, aujourd'hui n'a pas encore tout à fait la maturité pour affronter Emmanuel Macron sur le régalien. Et donc, on voit bien que les Verts, au fond, se satisfont qu'on parle d'eux, pour les régionales, pour les départementales. Ça leur a réussi aux élections municipales, mais
c'est un autre scrutin, peut-être.
Exactement, et ils ne comprennent pas que ça permet à Emmanuel Macron de diaboliser la gauche et de les enfermer complètement dans un rôle qui les empêche de jouer le rôle premier dans l'élection présidentielle.
Alors, on voit dans ce sondage, alors Frédéric Dabi, Anne-Laure Blin, pour les LR, on voit que Xavier Bertrand, le match est plié.
Non, la machine à perdre va se mettre en route, pardon, mais ils vont vouloir se battre pour des primaires. Et donc,
Question. Comment vous l'avez lu, ce sondage ?
Non, mais arrêtons de vouloir gouverner avec des sondages et du sentiment.
On ne gouverne pas, madame, là. Hein. Ce n'est pas du gouvernement, c'est une photographie.
Vous faites des prédictions.
Ce ne sont pas des prédictions, c'est ce que j'ai dit au début de mon échange.
Avant la primaire de la droite, Alain Juppé devait gagner et vous avez été démenti. En 2002, Lionel Jospin ne passe pas le cap du...
Pardon, vous n'avez rien compris sur ce qu'est un sondage. Excusez-moi, vous n'avez rien compris.
C'est certain, c'est qu'on ne fait pas et on ne gouverne pas depuis un bureau à Paris. On gouverne quand on est sur le terrain. Et moi, ce que je vois sur le terrain, c'est qu'effectivement, les Français ne savent pas qu'ils ne se retrouvent pas dans leur politique. Ils ne se retrouvent pas dans le débat d'idées qui n'existe plus dans nos médias.
Mais là, vous faites de la politique. On est en train d'essayer de comprendre ce que vont faire les Français.
Je n'essaie pas de comprendre ce que vont faire les Français. Moi, je travaille avec eux et je suis à leur côté sur le terrain.
Est-ce que Xavier Bertrand s'est déclaré ? C'est le seul à droite qui s'est déclaré.
Vous pouvez prendre tous les candidats potentiels de la droite. Vous pouvez prendre Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Bruno Retailleau. Vous pouvez prendre tous les candidats, Laurent Wauquiez, et il y en a plein d'autres. Moi, simplement, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, les Français en ont assez de cette homogénéité de pensée qui fait qu'on ne peut plus avoir...
Ils en ont surtout assez tous les candidats de droite se battre.
Attendez, parce que...
Ce débat de Macron...
On laisse Anne-Laure terminer.
Oui, pardon. Ce débat Macron... Le Pen n'est pas inéluctable. Simplement, il sera inéluctable si dans nos médias, si dans le débat politique, on n'a plus de possibilité de parler et de débattre
des idées. Alors,
mais c'est exactement, le débat est devenu totalement aseptisé et les Français en ont assez.
Non, on va voir ça tout de suite. Attendez, Mehdi, il y a Catherine qui nous a appelé, qui est au 0826-300-300. Pardonnez-nous, Catherine, bonjour.
Bonjour Catherine.
Bonjour, écoutez, je pense, je suis à peu près du même avis que la dame qui vient d'intervenir.
Anne-Laure Blin.
Parce que, Anne-Laure Blin, pardon, je ne me souvenais plus son
nom.
Non,
vous inquiétez pas.
Écoutez, non, ce qui me chagrine, si vous voulez, c'est qu'en fait, les médias sans arrêt. J'ai l'impression qu'en fait, ce sont les médias qui mettent dans l'esprit des Français qu'il y aura de toute façon un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et ça, c'est insupportable. D'autre part, effectivement, monsieur, vous dites que les sondages, c'est une photographie. Mais il n'empêche que sans arrêt, on ne fait des sondages que sur ces deux-là, et en l'occurrence sur
Xavier Bertrand. Mais non, on a testé 6 hypothèses différentes.
Attendez, Frédéric, on va laisser terminer, puis Frédéric, vous réagirez derrière.
Moi, je n'ai que 2 minutes pour parler. On ne parle que de Xavier Bertrand. Il y a d'autres candidats à droite. Ces candidats à droite, on ne veut pas les faire héberger. En l'occurrence, on n'en parle pas. Excusez-moi. On n'en parle jamais. Ah bon, on ne parle pas de Bruno, Renaud, je ne sais plus son nom.
Bruno Retailleau.
On ne parle pas.
Allez-y, Catherine.
On ne parle pas de Laurent Wauquiez. On ne parle que de Xavier Bertrand qui se détache. Excusez-moi si c'est Monsieur Xavier Bertrand qui est effectivement le candidat de la droite. Il ne sera pas au second tour, de toute façon. Et d'autre part, je suis pour les primaires. C'est la seule façon de départager les gens à droite. Je suis pour ces primaires, parce que si c'est M. Xavier Bertrand qui est effectivement prôné par les médias et par la gauche, il ne sera pas au second tour, comme l'était d'ailleurs Alain Juppé, qui est remplacé
candidat de la droite, par madame, Emmanuel Macron.
Qui est remplacé par Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron, c'est un Juppé tout simplement, un Juppé plus jeune. Voilà, c'est tout. Bon, alors maintenant, je dis que moi, c'est absolument pas inéluctable que ce soit Marine Le Pen et Emmanuel Macron qui soient
au deuxième tour.
Voilà.
Merci beaucoup, Catherine, pour votre appel. Et voilà, ça s'entend, ce que dit Catherine. Frédéric.
Ce que dit Catherine est complètement entendable et plutôt juste. C'est pour cela, en fait, madame, qu'on ne sait pas. Arrêter sur une seule hypothèse où on ne se serait pas fatigué, on aurait testé que Xavier Bertrand, puisqu'il est effectivement un peu plus audible en ce moment après sa déclaration de candidature. On aurait gardé que Yannick Jadot, alors qu'on a testé par exemple Éric Piolle. On a fait l'effort à l'IFOP et avec Sud Radio, que je remercie d'avoir commandité ce sondage, d'avoir interrogé 2000 Français, deux fois plus que d'habitude, et d'avoir testé tous les premiers tours et tous les seconds tours possibles. N'oubliez pas la critique assez juste qui avait été apporté au système médiatique et au sondage en 2002, c'était pendant 5 ans, vous n'avez fait que annoncer la finale Chirac-Jospin. On sait comment ça s'est terminé. Maintenant, j'entends ce que dit aussi Madame Blin. Je trouve que sacraliser comme ça le terrain qui a raison et nous qui sommes en fait à Paris qui avons tort, c'est extrêmement démagogique et faiblard.
Alors, on va faire une pause tout de suite parce qu'il y a un autre sujet que je voudrais évoquer sur ce sondage avec vous également. C'est l'état de la gauche dans ce sondage également. C'est à suivre dans un instant. On vous entend aussi au 0826 300 300, puisque véritablement il y a des divisions et il y a des tractations en cours. Vont-elles arriver à leur terme? Ça, c'est une autre histoire. Allez, on en parle dans un instant et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300 sur Sud Radio. On en parle avec vous.
Sud Radio 10h midi. Débat.
Allez, on continue ce débat autour de l'élection présidentielle avec ce sondage IFOP pour Sud Radio et le JDD avec le retour du duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen pour le deuxième tour de la présidentielle. Si on votait aujourd'hui, c'est une photographie à l'instant T, on le précise et on le rappelle. Et on va s'intéresser à l'électorat de gauche que vous avez testé dans ce sondage, parce que c'est pas une très bonne nouvelle. Si on arrête et on fige les choses aujourd'hui, c'est que même rassemblé, Frédéric Dabi, ça ne veut pas dire pour l'instant que le rassemblement fait la force.
Ben, tout à fait. Et ce sondage annoncerait.
Alors, on met du conditionnel.
Troisième 21 avril pour la gauche. Ce qui est très intéressant, c'est que en 2002, c'était ce coup de tonnerre auquel personne ne s'était attendu. En 2017, beaucoup de gens de gauche disaient finalement Emmanuel Macron, c'est peut-être un candidat de centre-gauche. Je rappelle que son socle électoral du premier tour vient pour moitié de l'électorat Hollande. Là, on a, avant de parler même des différentes personnalités, on a un total gauche qui est faiblissime. Je le disais, c'était 40% en 2012, 32% en 2007. Là, on est à peine à 26-27%. Et puis, c'est vrai qu'on a une vraie difficulté. Et pour Jean-Luc Mélenchon, qui arrive certes en tête, mais à un niveau très éloigné de son score de 2017. Et l'axe, plutôt l'espace social-écologiste, écologiste social, Jadot-Hidalgo, pour l'instant, ne prend pas. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas prendre plus tard. Mais clairement, et je trouve que ce que dit Mehdi Ouaraoui était très juste, le problème, c'est que, avant de parler Mécano, Union, Rassemblement, en 74, la gauche part très unie, elle perd. En 80, il y a 5 candidats de gauche au premier tour, elle gagne. Donc, ce n'est pas seulement une question d'union, c'est une question d'offre programmatique. Que dit la gauche aux Français? Elle est aujourd'hui, ici et maintenant, inaudible.
Mehdi,
ou peu audible.
Mehdi.
Oui, on a.
Parce qu'il y a une réunion, alors on rappelle pour nos auditeurs, voilà, samedi, il y a une union qui se profile, un grand rendez-vous, à laquelle d'ailleurs ne participera pas Jean-Luc Mélenchon, mais Adrien Quatennens, mais a priori, tout le monde devrait se retrouver, pas autour d'une table, mais en visio en tous les cas.
Il y a plusieurs éléments qui posent problème. Bon, le premier, c'est que le seul sujet de conversation à gauche aujourd'hui, c'est en gros le déchirement identitaire et le déchirement sur la laïcité et l'union de la gauche. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois que vous entendez un leader de gauche ces derniers temps, c'est pour parler de son petit copain sur la question de l'identité ou de la laïcité. Alors généralement avec le débat islamo-gauchiste versus gauche laïque et républicaine. Et de l'autre côté, des belles déclarations sur l'union de la gauche et l'unité de la gauche. Sauf que sur ces deux sujets, d'abord, un, la gauche a quand même beaucoup perdu en crédibilité. Ensuite, qu'on le veuille ou non, ils ne font pas partie des premiers items qui préoccupent les Français aujourd'hui. Quelqu'un qui se préoccupe de son emploi, qui se préoccupe de savoir si son gamin de 6 ans va devoir porter un masque encore 10 ans ou pas à l'école, ou qui se préoccupe tout bêtement de savoir comment il va payer son loyer, se préoccupe assez peu en réalité de savoir si le parti de Monsieur Machin et le parti de Madame Machin vont réussir à s'entendre aux élections régionales et aux élections départementales. Donc ce ne sont pas des items forts dans la tête de nos concitoyens. Et en plus, il faut quand même regarder, il faut faire un tout petit peu d'histoire, une histoire récente, je vous rassure, pas très ennuyeuse, de ces 5 dernières années. C'est-à-dire que la gauche n'a pas saisi l'occasion de cet événement un peu extraordinaire qui a été l'élection d'Emmanuel Macron pour se rénover elle-même et pour se remettre en question après avoir été littéralement éradiquée du paysage politique comme l'a été la droite. Et donc, au lieu de faire ce travail pendant 5 années de fond, d'offres programmatiques et d'amener sur le devant de la scène un certain nombre de grandes idées, je pense par exemple à la question du revenu universel, qui est une des seules idées qui en réalité a percé dans le débat, mais il y aurait pu y en avoir 10, 15, 20, 30, voilà. Mais au lieu de faire ce travail-là pour rétablir un contenu programmatique à la fois radical et un peu nouveau et crédible en termes de gouvernement, ce travail n'a pas été fait. Et enfin, le dernier élément qui, à mon avis, n'est pas un élément tout à fait anecdotique dans la Ve République, et surtout quand on pense évidemment au pouvoir personnel, éminemment personnel, qui est celui du président de la République, c'est que les personnalités de gauche aujourd'hui, et la première d'entre elles, qui est Jean-Luc Mélenchon, qu'on le veuille ou non, ont été, ces dernières années, pris dans une forme de tourbillon où elles se sont progressivement décrédibilisées. Quand on voit la cote de popularité de Jean-Luc Mélenchon, il est frappant de voir qu'elle s'effondre systématiquement sur certains événements très particuliers, évidemment la perquisition, évidemment. Voilà. Donc on voit, c'est très frappant sur la courbe de popularité, de crédibilité présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, de voir qu'elle s'effondre au gré d'un certain nombre d'erreurs tactiques qui ont été, et puis d'erreurs de comportement, évidemment, qui ont été commises ces dernières années. Et je termine sur un point, c'est que le sondage qui est extrêmement bien fait, moi je trouve que c'est un sondage qui est extrêmement, vraiment très intéressant, c'est une photo, on peut ne pas aimer la photo, ce qu'il y a sur la photo, mais la photo est extrêmement bien faite. Il y a quelque chose d'assez frappant, c'est qu'on parle du Front Républicain pour ce qui concerne la gauche, parce que la gauche aujourd'hui est parti pour être éliminé au premier tour. Mais en réalité, on s'aperçoit en regardant les reports de voix que le Front Républicain s'effondre en général et qu'il y a une frange tout à fait significative des électeurs de droite qui sont tout à fait prêts, en cas de, par exemple, de candidature Mélenchon au second tour de l'élection présidentielle, qui sont tout à fait prêts à basculer massivement vers Marine Le Pen.
Mehdi, c'est ça qui est intéressant.
C'est extrêmement effrayant parce que c'est la première fois qu'on voit un basculement de cette ampleur-là. Et donc, Libération, par exemple, faisait sa une.
Rapidement, Mehdi.
Je finis là-dessus, mais Libération faisait sa une sur les électeurs de gauche qui n'iraient pas voter Macron au second second tour face à Le Pen. Mais en réalité, ce qu'on voit, c'est que ni les électeurs de gauche, ni les électeurs de droite sont prêts désormais à faire ce barrage républicain.
Voilà. Alors, je voudrais qu'on reste sur la politique. Il nous reste 5 grosses minutes à voir ensemble sur ce qui est en train de se passer autour de la réflexion de la tenue ou non des élections régionales. Donc, le principe, c'était que ces élections devaient avoir lieu. Elles ont été décalées, mais elles avaient lieu. Et une nouvelle consultation surprise a été lancée vendredi par les préfets auprès des 36 000 maires de France pour savoir s'ils considéraient que oui ou non les conditions allaient être réunies pour organiser ce scrutin des élections régionales. Sophie de Menton, est-ce que c'est compréhensible de s'interroger sur une tenue compte tenu de la crise sanitaire, puisque je rappelle la Haute Autorité de Santé, enfin tous les cas, le Conseil scientifique recommande que seules les personnes vaccinées tiennent les bureaux de vote, par exemple, enfin de prendre le maximum de précautions. Est-ce que le gouvernement et Emmanuel Macron ont raison de prendre des précautions en demandant aux maires s'ils étaient prêts à organiser le scrutin?
Alors, si je réponds très, très, très intuitivement, etc., j'ai l'impression qu'en ce moment, les Français s'en fichent complètement des élections. Ouais. Pourtant, c'est des élections qui les concernent, parce que c'est des élections de proximité, mais franchement, on a la tête à autre chose, donc ça, c'est assez juste, sauf dans certains cas. Là, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait, on a beaucoup glosé sur l'élection pendant le premier confinement, qui n'a pas été un facteur d'accélération, semble-t-il, du tout de la pandémie. Ça s'est très bien passé, ça a été très, très très bien fait. Donc voilà. Ensuite, il est vrai aussi que au moment où on peut même pas s'asseoir une seconde à une terrasse pour manger un sandwich, dès que vous êtes assis, vous avez un PV. On a une espèce de révolte de se dire, ah bon, et pourquoi on peut aller voter, mais on n'a pas le droit d'aller visiter un musée avec une jauge. Enfin, il y a une espèce de contradiction permanente entre ce qu'on a le droit de faire. Et donc, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Et enfin, la dernière question que je me pose vraiment, pourquoi cette consultation dernière minute? Je ne suis pas capable de vous répondre.
Alors, Frédéric, rapidement, et on fait le tour de table.
Je partage ce que dit Sophie. C'est vrai que dans notre baromètre Ifop Fiducial pour Paris Match et Sud Radio, sur les conversations des Français, 14% seulement ont parlé en avril des élections régionale, c'est le score le plus bas jamais vu pour une élection, quelle que soit cette élection. Maintenant, c'est vrai qu'on sent une crainte des pouvoirs publics et du gouvernement à se prononcer. Il a refilé la patate chaude, si je puis dire, au Conseil scientifique. Maintenant, c'est cette consultation qui est très intéressante, mais qui a quand même été extrêmement téléphonée. Je pense que les Français, ils attendent une décision, et je pense qu'ils l'approuveront.
Anne Lorblin.
Oui, simplement pour rebondir juste sur ce que disait Monsieur Houari, c'est normal que la gauche soit dans cet état, hein, parce que la gauche, c'est Macron aujourd'hui.
Alors un coup c'est à droite, un coup il est à droite, c'est là en même temps.
Ben, c'est les années Mitterrand, toutes ces sœurs de François Hollande. Voilà.
Et madame, comment va-t-vous expliquer que les électeurs de François Fillon soient majoritairement bonnes de Macron?
A grand mal à prendre une décision parce que le gouvernement ne veut pas que les élections se tiennent. Voilà.
À votre avis, pourquoi alors?
Eh bien, il ne veut pas.
C'est
parce
le spectre des procédures judiciaires contre Édouard Philippe.
Que les élections aient lieu, donc il fait tout pour différer. Il utilise tous les arguments, toutes les possibilités.
Quel est l'intérêt qu'il aurait? Quel est l'intérêt à ce moment-là?
C'est encore un complot.
C'est de baïonner la démocratie.
La démocratie.
Mais regardez les choses, comment elles se passent. Regardez les choses sur le territoire. Regardez les maires qui n'ont
Attendez.
Les confinements se sont déroulés successivement les uns après les autres. Les maires, les élus n'ont jamais été consultés de la même manière qu'ils ont été consultés depuis vendredi soir. Alors, je veux bien que vous trouviez tous les meilleurs arguments pour défendre le gouvernement.
Personne ne défend le gouvernement.
Madame, c'est vous qui discréditez la parole politique parce que ça n'a pas le sens.
Ridicule, Anne-Lorblin,
Attendez pas tous en même temps.
Je ne prends la parole politique puisque je suis élue depuis septembre et que
tout est dit.
Alors je vais poser une question. Vous considérez qu'il faut tenir le scrutin quoi qu'il advienne?
Laissez parler. Le scrutin doit naturellement avoir lieu parce que il y a eu un bon nombre de pays européens.
Mais parce que sinon votre parti ne pourra pas se financer.
C'est absolument pas ça, Monsieur Houari.
C'est ça qui est triste en fait.
C'est ridicule. Effectivement, aujourd'hui, on baïonne la démocratie, on baïonne la liberté.
On peut pas dire ça en France, franchement.
C'est du Trump.
Ils ne pourraient pas non plus choisir leurs représentants départementaux et régionaux.
Mais on verra. Attendez, parce que il reste très très peu de temps. Mais pour conclure, vous avez 30 secondes.
Ça, c'est du Trump. Mais là, ça, on vient d'entendre du Trump Lidl. C'est même pas. On vient d'entendre du Trump. Mais Anne-Laure Blin,
attendez, Anne-Laure, parce qu'on n'entend pas.
On n'entend plus rien. Calmez-vous. Calmez-vous. Là, on vient d'entendre du Trump Lidl. C'est-à-dire vraiment du
Donc, vous considérez qu'il faut tenir le scrutin.
Non, mais ce que je dis simplement, c'est que Frédéric vient de dire les choses. Les Français ont la tête ailleurs. Ça ne les intéresse absolument pas.
Non, mais alors pourquoi la consultation des maires, alors ?
Donc, la consultation des maires, parce que Macron a voulu se couvrir et on comprend pourquoi. Moi, ce que je pense, c'est qu'en réalité, le sujet n'est pas le jour du vote, le sujet est la campagne. Et donc, on parlait à l'instant de qui serait avantagé ou pas dans une élection par les sondages, par les médias, etc. Moi, je suis désolé, mais enfin, dans une élection où les nouveaux candidats ne peuvent pas faire campagne, alors que les candidats sortants sont à longueur de journée dans les médias locaux pour parler des confinements, pour parler des aides aux entreprises, etc. Évidemment qu'il y a une inégalité de traitement entre les candidats. Mais les petits partis politiques ont besoin de faire leurs petites affaires.
Bon, quoi qu'il en soit, c'est un sujet qui reviendra sur la table puisque cette consultation, on a fini, Frédéric, désolé. La consultation se termine là dans une minute précisément puisque les maires avaient jusqu'à midi pour répondre. Il y aura un débat également avec les parlementaires cette semaine, donc le sujet reviendra dans l'actualité. Merci à tous les quatre pour ce débat ce matin sur Sud Radio, ce lundi 11 avril. Et on va retrouver dans un instant André Bercoff sur Sud Radio jusqu'à 14h. Et moi, je vous souhaite une très belle journée, un très bel appétit. Et dans un instant, c'est l'info de midi. À tout de suite.